Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi. Bienvenue à vous tous et toutes pour maintenant ce 9e épisode de la saison 2 du podcast Explore, où on est toujours avec Dimitri, Sophie, moi, nous trois, deux pasteurs, un théologien, formateur d'adultes, qui a aussi fait un bout de pastorat, qui discutons de la foi chrétienne aujourd'hui. On a, dans les deux derniers épisodes, on a fait l'Église, la collectivité dans laquelle on se trouve avec la foi ou qu'on découvre, la question de la vérité, comment on aborde la vérité dans la perspective de la foi. Et un peu dans la suite de cette thématique de la vérité, il y a ce sujet peut-être un peu barbare du miracle. Voilà, quel rôle le miracle joue-t-il pour la foi, tel qu'on l'expérimente, tel qu'on la vit? Et puis c'est Sophie qui va se prêter à la chronique, qui va nous introduire sur ce sujet.
Une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par un court extrait d'un livre que j'aime beaucoup. C'est « Petite » de l'autrice romande Sarah Gisler, qui est parue aux éditions Équateur. Elle dit ceci. « Je ne crois pas en Dieu, seulement en celui de l'autostop, une sorte d'ange mystique qui ne se manifeste que dans les moments que l'on qualifie de vraiment merdiques. Par exemple, après 10 heures d'attente sur le bord d'une route déserte, en pleine nuit, quand il fait un froid de loup, et qu'on est à deux doigts d'abandonner. Je crois en ce Dieu-là depuis ce jour, sur l'autoroute de Hambourg, où je ne voyais pas d'issue. Soudain, une voiture s'est arrêtée sur la borne d'arrêt d'urgence. « Dépêche, monte, c'est interdit. On va à Copenhague. Ça te va ?» Un miracle. Fin de citation. Et pour moi, là, dans ces quelques lignes, on a finalement l'essence de ce que c'est un miracle. C'est l'ouverture qui surgit quand tout paraît fermé, la révélation quand plus rien n'a de sens. C'est tout ce qui nous dépasse et ce qu'on n'attend pas qui fait irruption pour illuminer, voire sauver une situation désespérée. Alors il y a bien sûr les petits miracles, comme celui qu'on vient d'entendre, encore que peut-être que c'est un grand miracle à l'échelle d'une personne. Et je pose ici peut-être que quand on vit dans un contexte plutôt privilégié, on a peine à imaginer ce que ça peut être de vivre vraiment sur le fil dans un contexte où on aurait besoin de façon vitale d'un miracle. Et c'est ce que j'expérimente parfois quand j'accompagne des personnes qui ont vécu des situations très, 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 très difficiles, qui ont à un moment donné paru complètement désespérées. Il peut y avoir un tournant qui se présente et où les personnes ont vivement conscience que c'est un miracle, un sentiment d'avoir été profondément en danger et puis que tout d'un coup la situation s'est dénouée, des proches qui ont été malades, un enfant malade et puis les gens qui ont prié et qui disent « Ah mais voilà, c'est tel ou tel, je pense à des saints ou à des situations justement d'ordre miraculeux et je pense vraiment qu'il y a dans notre manière d'aborder le miracle, de nouveau dans un sens souvent d'habitude très 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 théologique, très très rationnel, et puis on va gloser sur il y a miracle, il n'y a pas miracle, est-ce qu'on y croit, etc. Moi j'aurais vraiment envie de partir de la vie des gens justement comme ça, et de réaliser cette dimension-là, que pour énormément de gens dans le monde, le miracle c'est une réalité. C'est pas une idée, c'est quelque chose qu'ils ont profondément vécu, et c'était par là que je voulais aborder la question, avec aussi cette dimension qui peut être aussi collective. Est-ce que c'est pas un miracle que quand au milieu du chaos il y a la paix qui peut émerger, quand la vie revient après une descente aux enfers, quand la vérité surgit dans une famille où il s'est passé des choses terribles. Et donc voilà, C'est comme ça que je voulais aborder cette question du miracle.
Merci beaucoup, Sophie. C'est sans doute une manière qui doit pas mal le décaler, hein. Bah, c'est vrai que quand j'ai pensé à ce sujet initialement, ça revient peut-être à ce que tu as dit sur ces manières très rationalisantes d'essayer d'aborder le miracle, mais on s'est dit, bon bah voilà, l'eau ça se transforme pas en vin, et personne marche sur l'eau. Enfin, c'est des choses qui, dans le monde, ça n'arrive pas, donc ergo, ça n'existe pas. Et puis à la limite, à partir de là, ben oui, on peut faire des interprétations. Voilà, ça nous emmerde quand on lit la Bible, hein, ce genre de perspective, parce que du coup, il y a plein de choses qui apparaissent dans la Bible qui relèvent du miraculeux au sens où, et c'est peut-être un sens spécifique, ça transgresse nos représentations des lois de la physique, de comment le monde tourne, quoi, simplement. Et là, tu pointes vers autre chose, vers au fond, qu'est-ce qui se passe quand la brèche s'ouvre de manière qui favorise la vie peut-être, ou qui nous permet de continuer, quoi. Quelque chose comme ça.
Oui, puis de façon inattendue, et tellement inattendue que ça peut que être une forme d'intervention divine.
Ouais.
Et ce qui est fantastique dans cet extrait, c'est ça, justement. Ça commence par « je ne crois pas en Dieu ». Et puis après, il y a quand même une histoire d'ange mystique qui se manifeste dans ces situations-là.
Mmh.
Et je crois que on est justement aux confins, à la brèche de pouvoir dire, ouais, mais quand c'est tellement extraordinaire, ça me dépasse tellement, c'est... Ben, les guérisons miraculeuses, c'est ça aussi. Alors peut-être qu'il y a une explication scientifique derrière, très complexe, auquel on n'a pas accès, mais il y a le sentiment pour les gens qu'il y avait une intervention divine, que ça avait du sens à ce moment-là.
Et puis très concrètement, ça veut dire qu'à échelle humaine, il n'y avait pas d'issue.
C'est ça.
Soit ben, dans la Bible parce que la personne était morte, ça arrive quelquefois, il y a ces récits que je trouve assez touchants de Jésus qui vient réanimer des enfants, une petite fille d'un chef de la synagogue, mais enfin où elle apparaît plusieurs fois dans différents contextes, puis voilà, le sans issue il était là quoi, hein, à ce stade, puis quelque chose d'autre s'ouvre quoi, enfin quelque chose d'autre. Apparemment,
oui,
c'était pas sans issue, quoi.
C'est aussi quelque chose qui permet peut-être de surmonter aussi un peu l'absurde.
Mmh.
J'ai discuté une fois avec un militaire qui avait fait beaucoup d'opérations sur le terrain.
Non, il a pas juste fait son école de recrue, lui.
Non. et il me disait, mais sur un champ de bataille, tout le monde est croyant.
Mmh.
Mais pas parce que... forcément c'est hyper religieux comme dimension, mais simplement entre mourir et vivre, t'es à 5 secondes et du coup il y a un côté aussi un peu arbitraire.
Mm-hmm.
Ton copain est mort et toi pas.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce que c'est? Et du coup c'est, ah mais en fait j'ai survécu grâce à un miracle, enfin, c'était pas possible. Et parce que c'était tellement logique que je meure dans cette situation-là. Donc c'est, pour moi, c'est des cas limites, des situations limites qui nous mettent un peu aux confins de notre entendement, de justement peut-être aussi des lois de la physique.
Oui, d'ailleurs, dans la continuité de ce que tu dis, c'est quand quelqu'un dit finalement. J'ai survécu et pas lui, par exemple, et c'est de l'ordre du miracle. Ça renvoie au fait que le simple fait de vivre, d'avoir survécu, est déjà quelque chose de miraculeux. Et je pense que là, il y a une pensée théologique profonde derrière, c'est que déjà, le premier émerveillement du type miraculeux, c'est déjà d'exister. C'est déjà de pouvoir dire, mais finalement, rien n'est ici une évidence. Le fait que je puisse contempler un lever de soleil, des choses qui sont considérées comme banales, en fait, le miracle, c'est déjà arriver à se réapproprier ces moments-là, d'admirer, en fait, le fait d'être vivant.
Ouais, alors qu'il y aurait beaucoup de raisons, si on est un peu cracra dans la description, de très vite retirer le... Tu disais quoi comme mot? Émerveillement, c'est pas ça?
Oui, l'émerveillement de...
De ne pas... Il y a beaucoup de raisons de ne pas s'émerveiller selon comment on décrit notre condition, quoi.
Oui. Mais ça veut dire que même devant le tragique, il y a de l'émerveillement dans le sens où, voilà, quelqu'un aura survécu.
Mmh.
et quelqu'un pourra en témoigner. Et puis même si ce sont des parcelles d'existence, c'est encore une parcelle d'existence, si tant est que l'existence n'ait pas pu se maintenir, par exemple. Ou... En fait, très souvent, dans les moments de résilience, on se rend compte que finalement, on éprouve une grande gratification, même auprès d'une vie qui aura été fragile ou incomplète ou malade, ou qu'il y a quand même, même si c'est quelques fractions de seconde, enfin, il y a quand même quelque chose qui s'est noué, en fait, pour l'infini. Quelque chose est advenu malgré tout. Et je pense que ça, c'est de l'ordre du miracle quand on arrive à accueillir cette réalité-là. Et peut-être que dans les évangiles, la dimension du miracle, c'est pour souligner quelque chose de finalement assez simple. C'est pas tant pour l'événement miraculeux, le fait de marcher sur l'eau, que pour signifier que ici et maintenant, dans cet événement, se joue quelque chose auquel on ne serait pas attentif sinon. Le risque, c'est justement l'inattention par rapport à ce qui est miraculeux. Et je pense que parfois, effectivement, on utilise un certain registre, peut-être littéraire, pour signifier ce miracle de manière plus prégnante, alors qu'effectivement, nous sommes peut-être traversés constamment, comme dans cette histoire aussi, par des événements qui sont de l'ordre d'une telle, d'une telle intensité ou de quelque chose qui est tellement inattendu que finalement, c'est quelque chose qui tient du miracle.
Et j'imagine aussi, on va être reconnaissant, mais on ne peut pas si bien dire pour qui, tu sais.
Oui.
Au fond, dans l'exemple de « j'aurais dû mourir, mais lui, à 5 mètres à côté de moi, il ne meurt moi pas », je continue à vivre. Alors, tu vois, la question, est-ce que je peux être reconnaissant? Mais j'imagine que ce n'est pas toujours aussi évident dans le cadre de conflits armés. Mais à qui, justement? Et sûrement qu'il y a que ça qui se joue aussi dans le miracle.
Ouais, c'était ce que je soulignais par rapport à l'absurdité, au-delà des questions traumatisme, culpabilité du survivant, mais plutôt sur cette dimension, il y a effectivement quelque chose qui dépasse, il n'y a pas de raison concrète, objectif, on ne trouve pas le sens de pourquoi ça s'est passé, en fait, de ce côté-là.
Je sais un peu sur... Parce que là, on peut dire, au fond, dans ce qu'on décrit là, ou comme moi je le reformulerais, c'est qu'il y a... On touche à des limites dans notre expérience quotidienne, on touche à des limites, et en même temps, ce qui se dévoile dans ces limites ou ce qui advient à partir de ces limites peut être source d'émerveillement. Donc ça, c'est un peu le regard rétrospectif sur des choses qui nous adviennent. Mais il y a... le miracle, en tout cas, dans la foi chrétienne, au sens plus large de ces expressions, de ce qui existe dans le christianisme. Il y a aussi l'attente de miracles. Il y a on prie pour des miracles. On prie pour l'intervention de Dieu. Maintenant qu'il change cette situation, ça peut être au sens large de changer une situation dramatique. Ça peut être une famille qui est dans la détresse financière. Il faut vraiment que maintenant le mari trouve un boulot, donc on va prier pour qu'il trouve un boulot, quoi. Ou bien c'est une maladie pour laquelle on va prier pour la guérison alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'issue, qu'a priori d'un point de vue médical, il n'y a pas d'issue possible, quoi.
Ou qu'il n'y ait pas la grêle qui tombe sur les vignes.
Ou qu'il n'y ait pas la grêle qui tombe sur les vignes, non mais ouais, très clairement. Donc il y a aussi ce rapport-là, c'est-à-dire en tout cas dans la foi chrétienne, je pense que l'émerveillement, bon, moi c'est assez facile pour moi d'aller dans ce sens-là, dans le sens d'un émerveillement par rapport à ce qui advient. J'ai aussi des situations où je pourrais clairement dire que ça relève du miracle parce qu'il n'y a aucune raison à ce que ça aille dans ce sens-là. Mais il y a cet autre rapport presque un peu actif avec le miracle.
Oui, en même temps, l'expérience la plus commune de l'humanité, c'est de réaliser que les miracles, ça ne se commande pas. Tout le monde a un jour prié, la grande majorité des gens qui prient se rendent assez facilement compte que nos prières ne sont pas toujours exaucées.
Et pourtant, il y a ces textes qui parlent de l'exaucement qui sera garanti, plus ou moins, tu vois.
Oui, mais de nouveau, c'est que Dieu sait mieux que nous. Il y a toujours cette idée dans la prière que nous ne savons pas prier et que nous ne demandons pas les choses adéquates. L'occurrence, il arrive bel et bien une réalisation, mais ce n'est pas celle qu'on attend. Et le miracle aussi n'est pas du même ordre que ce qu'on attend. Je sais pas, l'exemple, quelqu'un attendrait un miracle en gagnant l'auto, mais finalement on va être va être ensuite placé dans une situation où il n'aura plus besoin de le désirer. Enfin, on peut imaginer des déplacements dans l'existence, en fait, qui sont de l'ordre d'une forme de réalisation, mais sous une forme... D'ailleurs, j'avais dernièrement encore quelqu'un du séminaire qui disait, en fait, chaque fois que j'ai prié, j'ai été réalisé. Il fallait juste que je sois patient et puis que je sois attentif à comment il s'est réalisé, parce que ça ne correspondait pas exactement, évidemment, à sa demande. Mais j'ai trouvé ça assez opportun, parce que finalement, ça nous rend attentifs au vu de nos souhaits, de nos attentes, à comment, en fait, elles peuvent être comblées différemment et de manière inattendue. Et miraculeuse, quelque part. C'est pas tant une adaptation qu'il y a peut-être quelque chose effectivement qui advient, qu'on doit aussi pouvoir accueillir.
Et dans les récits de miracles qui sont faits par Jésus, par exemple dans la Bible, il y a quand même assez clairement... on voit qu'il ne répond pas à toutes les demandes.
Tu penses à quoi, là ?
Il est interpellé par des foules. Et il y a des moments où il fuit la foule. Enfin, on voit très bien. Et puis, des fois, il est interpellé contre son gré. La femme qui vient vers lui.
Puis, il ne descend pas de la croix alors qu'on lui demande de descendre de la croix. À un moment donné, faire la preuve de sa puissance en se libérant. Il ne le fait pas.
Le récit des tentations, c'est aussi un refus du miracle. Il y a des moments...
Enfin, du miracle comme moyen pour réaliser son propre intérêt.
C'est ça. Et puis, il y a aussi des moments où il dit « n'en parlez pas ». L'épisode avec Jairus, je crois que c'est avec Jairus, je ne suis pas sûre. Mais il y a un moment donné où il fait une guérison et il dit « n'en parlez pas ». Donc, il y a aussi tout ce paradoxe par rapport au miracle, dans le sens où c'est même pas finalement le... On ne devrait pas croire... À mon avis, on ne devrait pas croire à cause des miracles. Il y a plein d'autres... religion, plein d'autres gens à l'époque de Jésus qui faisaient des miracles. L'enjeu, il n'est pas vraiment là. Donc, il y a aussi quelque chose de mystérieux et qui nous dépasse de ce côté-là aussi.
D'ailleurs, il y a des épisodes de concurrence des miracles dans l'Ancien Testament, avec Moïse et les magiciens.
Oui. Tout à fait.
C'est avec juste, le serpent.
Ouais, c'est vrai.
Et en fait, rien de ce que fait Moïse en fait, ne peut être copié quelque part. Par les magiciens. Ils arrivent à... Ça renvoyait au fait que le miracle est plus significatif, en fait, que ces tours, en fait. C'est pas... Le miracle n'étant pas un tour de magie, quelque part, ou quelque chose qui contredirait les lois de la physique, comme tu dis simplement. Faudrait que ce soit quelque chose de beaucoup plus fondamental, en fait, qui arrive, que simplement un tour de passe-passe. Puis aussi, les polémiques avec Simon le magicien.
Je pensais à ça aussi, dans
les actes.
Ouais. Puis c'est intéressant, l'élément auquel je pense aussi, c'est les disciples qui sont pas bien accueillis dans une ville. C'est dans l'évangile selon Luc, je crois, où les disciples font déjà un petit tour de mission et ils ont une autorité de laquelle ils sont porteuses. Puis je crois qu'ils sont pas bien accueillis et puis ils demandent mais alors fais pleuvoir le feu ou donne-nous de faire pleuvoir le feu sur cette ville. Jésus ne rentre pas en matière. Ça devient une occasion d'enseignement. Mais. Je trouve, ça m'étonne pas qu'on en parle de manière détachée parce que je pense effectivement ça a été une grosse question. Enfin, pardon, j'ai l'impression qu'on en parle nous de manière assez tranquille et détachée. En même temps, j'entends aussi combien c'est quelque chose qui a véritablement posé un problème énorme à toute une génération avant nous dans leur vision du monde, que ça ne puisse pas coller au fond, que le récit ne colle pas. Avec ce qu'on peut dire de la réalité, tu vois.
Par rapport à la rationalité...
Par rapport à une vision scientifique de la réalité, par rapport à comment on voit comment les choses tournent, une vision moderne du monde, qu'a finalement un monde qui s'explique tout à fait indépendamment d'interventions divines et dont on va chercher à trouver des explications indépendamment de toute intervention divine en son sein.
Mais de nouveau, moi je trouve que c'est vraiment un discours de privilégié. Enfin, il y a qu'à voir. Dans certaines civilisations, dans certains pays, dans certains lieux, dans certaines situations de précarité, l'explication rationnelle ou non, c'est vraiment le dernier truc dont tu te soucies. La question c'est à quel moment surgit la vie. Et en fait, de réaliser que c'est pas toujours dans nos mains. Et dans des situations de fragilité, de vulnérabilité énorme. Moi, je trouve que c'est un peu le philosophe dans son salon, le théologien dans son salon, qui se pose la question de est-ce rationnel ou non ce que croient ces petites gens. Enfin, voilà, je fais un peu peut-être ma provocatrice, mais ça m'interroge aussi sur qu'est-ce qui colle à notre vision du monde.
Ouais. Je pense qu'il y avait aussi, en face de ça, il y avait aussi simplement des gens qui argumentaient à l'inverse que si on lâche un certain nombre de miracles, en fait, toute la foi s'effondre. C'est-à-dire que, précisément, c'est ce qui, dans l'histoire du monde, prouve que ces éléments qui échappent, en fait, à l'explication scientifique, c'est ce qui prouve la validité et l'autorité de cette tradition, le fait que ces événements rapportés existent et sont vrais et tels qu'ils sont, tu vois.
Mais surtout que la tradition chrétienne était férue de miracles, hein. Ça a continué encore bien longtemps.
Bien sûr, dans les histoires des saints, ils sont
très bien. Ça existe toujours,
Exactement, il y a toujours ces récits, qui sont des récits hagiographiques avec des guérisons. D'ailleurs, la guérison étant le miracle par excellence, hein, j'ai l'impression, malgré tout. Plus que vraiment des événements spectaculaires, etc.
Ouais, il y a des fois les apparitions aussi, ouais. Les visions comme ça. Mais.
Parce que. Vraiment, c'est assez clair que dans mon quotidien, en gros, je suis plus dans le registre du miracle de type émerveillement à la manière dont tu l'as raconté dans le livre Petite que dans l'attente. Mais bon, ouais, t'as raison, mais c'est sans doute parce que je suis pas non plus dans le fait de devoir le demander. Quand je prie, je demande des choses qui, a priori, si on reste un niveau descriptif, ça a quand même assez probable que ça trouve une résolution, tu vois. Enfin, même si dans l'immédiat, je vois pas d'issue, ou je suis confronté à quelque chose qui me paraît trop gros pour être pris en charge. Voilà, mais je n'ai jamais prié pour qu'on recouse cette eau qui était brisée, tu vois.
Mais et si on inversait, pour rejoindre aussi ta thématique, on fait toujours du miracle un gage de foi. Enfin, ça veut dire qu'en fait, c'est parce qu'il y aurait un miracle que finalement, on pourrait croire au reste, enfin, que ce serait tangible.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas inverser justement la dynamique? C'est parce que justement, en lisant les évangiles, par la foi, par le regard de la foi, nous sommes à même de reconnaître ce miracle. En tout cas, de voir en quoi c'est un miracle. Au fond, c'est comme si c'était une sorte de... C'est à nous d'investir, en fait, y compris quelque chose qui paraît tout à fait miraculeux, alors que, sous l'égide d'une rationalité contemporaine, c'est parce qu'il y a un élément de preuve qu'on peut croire. En gros, il a marché sur l'eau. Je pense que maintenant, si maintenant Jésus revenait et puis remarchait sur l'eau devant tout le monde, je suis même pas sûr qu'il aurait l'adhésion. Ce serait juste un événement TikTok de plus.
Fake news.
Et puis 90% des gens probablement n'y croiraient pas ou considéraient qu'il y a eu un truc ou que c'est un montage. Ouais. Donc du coup,
un peu comme on traite les UFO aujourd'hui.
Mais enfin, voilà, il y aurait pas de. C'est pas la preuve en fait. C'est pas l'événement miraculeux qui fait le miracle.
Ouais.
C'est une perception sur l'événement aussi. Ben, il y a quelque chose d'inattendu et de contre-intuitif, certes, mais c'est dans la foi que nous comprenons la portée du miracle ou de la guérison qu'a lieu dans l'évangile.
Ouais. Parce que c'est clair, si ces questions du miracle jouent en fait dans l'évangile selon Jean, justement, ils ont un rôle un peu spécial. Spécial ou spéciaux ? Aidez-moi.
Spécial, parce que c'est le rôle qui est spécial.
Merci. Donc, ils ont un rôle un peu spécial, ma grammaire fout le camp, qui est, au fond, de pointer par-delà eux-mêmes vers ce qui est Dieu et, du coup, qui est Jésus aussi. Il y aurait, typiquement, l'eau transformée au vin au repas de Cana. C'est pas là pour dire « Waouh !» Il a transformé de l'eau en vin, quoi. Il est trop fort. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand Bon, il n'utilise pas cette catégorie-là, mais je vais le traduire comme ça, le règne de Dieu jaillit dans la vie, quoi. Qu'est-ce qui se passe en termes de richesse, de générosité, d'un bout d'accomplissement aussi? C'est la phrase d'un des mariés, là, qui est au vin, mais normalement, on garde le bon vin... Non, un des invités au repas qui dit, normalement, on garde le bon vin pour la fin, mais là, tu l'as déjà fait venir alors qu'on a à peine commencé à boire, quoi. Non. Non, c'est l'inverse, ouais, pardon, l'inverse. Oui, parce qu'on garde le mauvais vin pour la fin. Mm-hmm. Non, t'as gardé le bon vin pour la fin, parce qu'à la fin, de toute façon, dès qu'on est sous, on fait plus la différence, tandis que là, on remarque encore qu'il est bon. Enfin, voilà, mais de dire qu'il y a une générosité dans la logique, et puis ça dit quelque chose de, finalement, quand Dieu agit en notre faveur, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et qu'est-ce que Jésus vient montrer par sa vie? Qu'est-ce qu'il vient incarner? Qu'est-ce qu'il vient performer? Et en fait, c'est une manière de retraduire ce que dit sur qu'est-ce qu'on perçoit dans le miracle, en fait. Et tout l'évangile selon Jean, en tout cas toute la première partie, c'est travailler avec la confusion autour du « mais qu'est-ce qu'on est en train de voir, en fait ?» Et puis, j'avais trouvé assez fort, à un moment donné, il y a toute une controverse sur qui Jésus prétend être. Moi et le Père, nous sommes un, blasphème. Tu dis pas ça, t'es pas Dieu, gars. Enfin, je veux dire, à un moment donné... et dit « Ok, mais si vous ne croyez pas ça, mais regardez au moins ce qui se passe avec ces signes que je vous présente, qui sont justement le fait qu'il y a de la générosité autour de ce repas, qu'une foule a eu assez à manger alors qu'il n'y avait rien du tout, le fait qu'un aveugle était aveugle juste parce qu'il était aveugle, finalement peut retrouver la vue, enfin, et que ça lui redonne sa place dans le monde, en fait, et que ça ne le fait pas juste subir une espèce de récit qui voudrait qu'il subit le péché de ses parents. » Peut-être que je suis en train de confondre des récits là, mais enfin, c'est pour l'esprit du sens du miracle, quoi. Et puis il dit, mais en fait, ok, peut-être que vous ne pouvez pas croire que moi et le Père, on soit liés, ça aurait tout un tas de conséquences très problématiques, mais au moins, prenez acte de ce qui se passe à cet endroit quand on vous le raconte et quand on vous le montre, quoi. Et qui est effectivement autre chose. L'évangile est très clair, il faut pas... Si on se limite à une interprétation descriptive, en gros, et que c'est ça qui ferait que ce serait miraculeux, on passe à côté, quoi. Donc voilà, je trouve l'évangile selon Jean a une manière très subtile de travailler, en fait. Parce qu'il tient vraiment compte du fait que le miracle pourrait être aussi interprété dans sa matérialité la plus brute, quoi. Mm-hmm.
Mais ce serait intéressant de revenir sur une typologie, enfin de refaire un classement. Enfin, là maintenant, ça me donnerait envie de faire ça, c'est-à-dire revenir sur tous les miracles dans les évangiles, un peu déclasser, puis de voir quel type de miracles sont récurrents ou pas, et puis en fait voir s'ils ont des corrélations. Ça, c'est vraiment. Bon, je pense que ce type de travail a été fait, mais du coup, je me dis que il y a des miracles qui sont arrivés, qui sont peut-être un peu récurrents, l'aveugle, le sang qui s'arrête, enfin. Et puis d'autres qui n'apparaissent pas.
Enfin, le sang, le saignement de la femme.
Ouais, le saignement de la femme, etc. Mmh. Donc il y a pas mal de miracles, mais aussi tous ceux qui auraient pu être, quelque part, enfin, dont on aurait pu s'attendre, qui auraient été peut-être plus spectaculaires. Il aurait pu jouer avec la foudre, je ne sais pas. Mmh. Et il y en a pas mal qui sont en fait exclus du registre des miracles dans les évangiles. Et en fait, on voit, je pense, assez rapidement que c'est toujours autour de la perception, c'est toujours autour de... d'une difficulté, on va dire, liée encore une fois au corps. C'est toujours lié aussi à la confiance. C'est toujours une thématique. Il y a une thématique vraiment d'adhésion, entre guillemets, qui est derrière. Donc, je pense qu'on pourrait vraiment découvrir...
Une restauration sociale.
Une restauration, exactement.
Et puis, souvent, on peut quand même en faire un sens symbolique aussi assez fort de ces miracles. Donc, ça va un peu dans le sens de dire, mais on pointe vers quelque chose d'autre... Pas simplement le miracle en lui-même, mais aussi, d'une part, la présence de Dieu et le surgissement de quelque chose de cet ordre, mais aussi, Jésus, il va pas mettre son travail miraculeux au service des grandes puissances ou d'un empire. Enfin, on voit très bien que... Alors oui, il n'y a pas de distinction. Il y a des chefs de la synagogue qui viennent auprès de lui, mais...
Le centurion aussi, enfin...
Voilà, mais il s'adresse à un certain public, quand même. Des gens qui sont touchés dans leur intégrité sociale. Quand il guérit une fois la main desséchée, on peut faire un lien avec la restauration de la capacité d'action. L'aveuglement, ça a aussi une dimension symbolique forte. Le fait de se mettre en route pour remarcher. Enfin, il y a tout un tas de choses qui nous poussent aussi à penser un peu plus loin à partir de ces histoires de miracles, et peut-être plus loin qu'un faiseur de miracles un peu à comme on pourrait imaginer quelqu'un qui fait des tours pour impressionner le cracheur de feu.
Zeus, qui jouait avec la foudre, qui serait plus dans la démonstration de sa puissance. En fait, il fait pas une démonstration de puissance, effectivement. C'est quelque chose qui est vraiment lié, t'as raison, à des réparations.
Ouais, sauf peut-être le fait de marcher sur les eaux, mais enfin, ça, c'est un truc un peu particulier dans les...
Mais ça reste pas...
C'est
de l'ordre de l'infaisabilité, mais c'est pas non plus... il écarte pas les eaux, enfin, ça pourrait être...
Ça pourrait être plus impressionnant.
Tant qu'à faire, il aurait pu aller beaucoup plus loin, quoi. Je sais pas.
Ouais. Bon, c'est un signe qu'il domine les forces du chaos, hein, en gros, ce fait qu'il marche sur les eaux, mais...
Oui.
Ouais, tout à fait. Certes. Tout à fait. Mais du coup, il y a aussi une dimension symbolique.
Là, je le mets complètement à son niveau symbolique.
Il y a aussi cette dimension-là.
Maintenant, il y a toujours cette contestation à l'interne du christianisme, qu'il y aurait ceux qui prennent les miracles à la lettre et qui vont pas leur donner, leur donner justement cette dimension. Symbolique ou autre de compréhension spirituelle, qui vont dire non, le miracle a vraiment eu lieu et il doit se réitérer sous la même
forme,
sous les mêmes conditions, formes, etc. Et en fait, ce que je dirais en toute simplicité, c'est que déjà, c'est pas une contestation, ce qu'on fait n'est pas une contestation de la possibilité d'un miracle, c'est qu'en fait, un miracle doit avoir une portée spirituelle plus large que simplement la guérison. Est plus entière, est plus profonde et plus signifiante encore que simplement d'être guéri d'une maladie.
Tissus se sont régénérés pour...
Parce qu'en réalité, on peut assister aujourd'hui à des guérisons miraculeuses du fait de la technique. Et elles sont proprement miraculeuses. Certaines guérisons du cancer sont extraordinaires, même si elles ont des explications. Parfois, elle dépasse aussi la compréhension médicale. Donc, du coup,
La compréhension médicale elle-même est des fois défacée par ce qui se passe entre ses mains. Hein.
Absolument, mais aussi, on n'a pas fini de comprendre ce qu'est le cancer, par exemple. Donc, du coup, c'est pour plutôt déployer la plénitude de sens du miracle que plutôt que de lui faire une dénégation de l'événement miraculeux comme tel. Je pense que c'est plutôt un élargissement.
Ouais. Et en lien avec ça, on l'a brièvement évoqué avant, mais aussi une espèce de dessaisissement par rapport à toute prétention d'en faire un outil de puissance, en fait, à disposition.
Oui, je pense aussi, ouais.
Enfin, ça, à mon avis, y a toujours cette pente-là qui est possible, mais...
Mais d'ailleurs, dans l'Ancien Testament aussi, il y a une attente assez récurrente d'un dieu de puissance qui viendrait vraiment régler les problèmes du peuple... et en réalité, ce qui est remis en cause très souvent, c'est leur manque de loyauté, on va dire.
Ils jouent pas le jeu, quoi.
Exactement, ils jouent pas totalement le jeu, et puis en fait, ça se passe plus ou moins bien, mais il y a une sorte de volonté de, quelque part, à travers le miracle, de pas comprendre quelque part que c'est un test pour notre foi, mais pas un test où il faudrait simplement acter. Mais voir à quelle portée on est capable de lui donner, plutôt qu'à l'inverse, un test pour Dieu. Parce qu'au fond, si on veut que le miracle se réitère, on teste Dieu, ce qui est complètement à l'inverse, peut pas, justement, dans ce rapport qu'on entretient avec Dieu dans le christianisme, justement, on veut sortir de ce magisme qui voudrait qu'en fait, il fasse ses preuves. Comme si, alors que c'est, quelque part, c'est quand même nous, a priori, qui sommes mis à l'épreuve de pouvoir nous ouvrir à l'ampleur de la réalité que Dieu nous offre.
Oh, waouh. Ça, c'est waouh. Ok, ouais. C'est pas mal. Ouais, parce que se voir offrir une réalité, et ça, en fait, c'est vraiment très contre-intuitif. Tu sais, la réalité, ça se constate. Ça s'éprouve, je sais pas comment dire, mais de dire qu'il y a un bout de la réalité qui, en fait, t'est offert dans cette situation.
Oui, mais de nouveau, dire la réalité, ça se constate, c'est hyper situé comme manière de voir les choses.
Mais en même temps,
bébé, il constate pas la réalité, il vit et il se développe et il grandit, et la réalité est avant tout à la fois un don et un contexte dans lequel il doit émerger.
Quoi, il se trouve qu'il est.
C'est pas.
Disons que ça se situait plutôt par rapport au fantasme. Au rêve et à la... Enfin, j'étais plutôt dans cette...
Tu en étais oui, pas oui, dans non, les... bien sûr, bien sûr.
On l'approche plutôt du, niveau, du, const... de la construction ou de l'idéalisme. Enfin, on était, je ne me situais pas sur ce niveau de réflexion avec la réalité, mais en l'occurrence, c'est comment le miracle est en situation de nous ouvrir une réalité, une dimension de la réalité, plutôt que de nous mettre en, voilà, dans une posture haute par rapport à ce qui nous est offert et de dire, voilà, maintenant... Mais j'aimerais que telle et telle personne ici maintenant soit guérie. Enfin, on inverse
le rapport de force.
Voilà, on inverse un peu le rapport de force. Et puis là, encore une fois, je pense que l'humain est mieux à même de faire ce type de miracle, à savoir forcer la réalité. Et en fait, il ne fait que ça, il veut se la soumettre quelque part. Et pour ça, on a des dispositifs qui sont quand même aujourd'hui très puissants. Et en fait, on aimerait quelque part peut-être hypostasier, en tout cas diviniser cette capacité humaine qu'on a sur le réel, en fait. Et puis en fait, la projeter sur Dieu, alors qu'en fait, Dieu ne se pose pas à la réalité de la même manière que nous.
C'est ça.
C'est peut-être une autre dimension beaucoup plus vaste, probablement, qui s'offre à...
Qu'est-ce que veut dire agir, en fait, hein? Sans doute qu'il y a... Pardon, c'est une intuition qui me vient là derrière. Le miracle, quand même, nous pose la question sur qu'est-ce que ça veut dire agir dans le monde, rétrospectivement, pour nous. Je vois quelle est l'action de Dieu, en fait, qui ouvre autre chose que ce que peut-être mon action... usuel fait. Enfin bon, une petite réflexion passant. Je vais maintenant nous guider progressivement vers ce qui, pour pas mal de gens quand même, est un peu un point de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un point d'encoublement, un point de résistance par rapport à la foi chrétienne. On va aller un peu sur la thématique de la résurrection de Jésus lui-même. Et puis, avant d'aller gaiement dans cette thématique, on va se mettre à l'écoute... des capsules qui vont ouvrir notre réflexion. Pour cet épisode, j'ai demandé à Carolina Costa, pasteur dans l'église protestante de Genève, et à Guillaume Favreau, historien à l'université de Lausanne, de répondre à la question suivante. Que signifie pour toi la résurrection de Jésus ? Merci à vous et on vous écoute.
La résurrection, c'est Anastasis en grec, qui signifie à la fois ressusciter, se lever et se réveiller. Or, tous les matins, justement, au réveil après la nuit, nous ouvrons les yeux. Et la première chose que nous voyons sans même nous en rendre compte, c'est la lumière. Dieu, en latin, vient du mot dies, qui signifie le jour et donc la lumière. Ainsi, le premier mouvement de la résurrection dans notre vie, c'est un regard ouvert sur la lumière. À la mort de Jésus, les disciples, hommes et femmes, ont plongé dans l'obscurité de la violence, de la souffrance, du mal et de la mort. Mais au matin de Pâques, justement au lever du jour, après l'obscurité, le Christ nous invite à ouvrir notre regard plus loin pour chercher la lumière qui donne la vie, celle qui nous remet debout, qui nous tire vers le ciel infini de Dieu. La lumière première de Dieu que même l'obscurité ne peut pas saisir, d'où tout provient et vers lequel tout revient.
La résurrection du Christ, qui est un élément au cœur de la foi chrétienne, pour moi, c'est l'affirmation que la vie a vaincu la mort, que l'espérance demeure, même dans les moments les plus difficiles. Pour les croyants, c'est la preuve que Dieu agit au-delà du visible. Qu'il redonne vie là où tout semble perdu, même si, en tant qu'historien, je doute parfois de sa réalité factuelle. Mais le récit porte une vérité plus profonde, c'est celle du renversement, de la lumière qui surgit des ténèbres, et pour moi, c'est toute une symbolique. Aujourd'hui, dans un monde qui est marqué par la peur, les conflits, les catastrophes, la résurrection me rappelle que rien n'est jamais complètement fini. Elle n'annule pas la souffrance, ni la mort, mais nous permet de nous dire qu'on peut la traverser, et qu'on peut ouvrir un avenir malgré celle-ci. C'est un appel à croire malgré tout, et c'est une force dans l'adversité et la douleur. C'est un mystère. C'est surtout un mystère, mais c'est un mystère qui pour moi est porteur de sens, surtout quand tout vacille.
Merci Guillaume, merci Carolina pour voilà, ces propositions quand même assez différentes l'une de l'autre. avec cette image, voilà, tout ce lexique de la lumière une première fois, et puis après une lutte ou une persistance de la vie malgré ou au travers d'une mort qui est là aussi. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais c'est clair que sur ce moment de la résurrection de Jésus, pour moi, on est... C'est pas que la résurrection tout seul, justement. Je pense que c'est toujours difficile de parler de la résurrection seule. Pour moi, on l'inscrit toujours dans une histoire. C'est la résurrection de cet homme après cet événement. Mais voilà, on touche à une espèce de limite. Comment parler de ça? Bon, si je me dévoile tout à fait personnellement, c'est une des questions où... Je suis doublement emmerdé sur cette question du comment apprécier ce qui se passe à cet endroit-là, parce que il y a un bout où j'aurais envie de suspendre mon jugement, mais je peux pas complètement le symboliser non plus. C'est-à-dire que il y a bien une rencontre qui a lieu apparemment pour les apôtres. Les apôtres sont apôtres parce qu'il y a eu cette rencontre d'une manière ou d'une autre avec le ressuscité. Est-ce que le tombeau était vide ou pas? Alors oui, on peut dire que c'est un artifice littéraire. D'ailleurs, l'évangile selon Matthieu joue tout à fait avec l'hypothèse que les contradicteurs des premières communautés chrétiennes vont dire « mais c'est que des gens qui ont déplacé le corps et ils vont faire croire que ». Et pourtant, je pense justement que avec toute cette question de la résurrection corporelle de Jésus, il y a... qu'est-ce qu'il faudrait dire? Ouais, quelque chose qui résiste. Ouais, la brèche à partir de laquelle tout commence vraiment concrètement, quoi, et très réellement. Mais je ne sais pas qu'en faire. Si vraiment, si on me confronte à la question, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça s'est passé ou ça s'est pas passé? Le tombeau, il était vide ou il était pas vide? Alors, historiquement, je peux un peu me cacher derrière le fait qu'on, de toute façon, on n'arrive pas à retourner, on ne peut pas retourner au fait premier en question. Mais il y a ça me suffit pas de juste dire oui un peu par prudence. De toute façon, on peut pas choisir, tu vois. Je pense que vraiment dans la foi chrétienne, il y a une prétention à beaucoup plus que ça qui se reflète dans ce que Karina a dit sur cet émerveillement qui est possible en fait et qui imprègne toute chose de sa lumière après qu'il y ait eu cette rencontre.
Mais là, si tu donnes le sentiment de faire un peu ce qu'on a fait avec les miracles avant. C'est-à-dire que tu t'en refais un peu, non pas tant un test pour toi, ouais, quelque part, qu'un test pour Dieu, de savoir si véritablement cet événement est advenu, et qu'en fait c'est comme si tu devais te laisser convaincre, enfin tu vois, comme si t'étais un peu dans un mouvement de balancier.
Moi pas, mais c'est des questions qu'on m'a posées récemment, et c'est vrai que ça m'habite quand on me pose la question comme ça frontalement. Je me sens un peu embêté de qu'est-ce que je dois répondre en fait, tu vois.
Bah, disons qu'il y a deux réponses, c'est... Enfin, peut-être qu'il n'y en a pas, mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de faire l'hypothèse de prendre cet événement, la résurrection, très au sérieux.
Ouais.
Déjà.
Alors, c'est ce que je ferais, ouais.
Oui, de la prendre au sérieux, et de ne pas tout de suite se dire, voilà, en fait, je vais lui donner une interprétation théologique. Non. Il y a vraiment une résurrection. Et en fait, qu'est-ce que ça indique par rapport à notre condition, à la promesse, à la mort. Et en fait, cette résurrection... c'est exactement ce qu'on souhaiterait qu'il arrive à quelqu'un qui vient de mourir. Désolé, mais quand on voit ses proches mourir, la chose qu'on veut voir, c'est une restitution, c'est un rétablissement complet. C'est la fin de la tragédie. Enfin, on veut voir la fin de tout ça. Donc quand moi j'entends ce récit de résurrection, je pense vraiment à la prégnance de la mort et en fait qu'il n'y a pas d'autre solution que la vie. Que nous, on ne peut pas penser la mort autrement que de cette manière, en fait, quelque part. Alors, je sais pas maintenant comment vous vous situez, mais j'ai pris le choix de prendre j'ai fait le choix, vraiment, de prendre très très au sérieux cette affirmation de la résurrection, et j'ai réalisé que c'était exactement ce que je souhaitais. En fait, la pleine restitution du corps, de la personne, de ça. Voilà, puis que ce soit un corps qui soit restitué, qui soit plein, qui soit entier, qui soit libéré justement de tout ce qu'il a entravé. Une sorte de corps glorieux aussi, quelque part. Et puis réconcilié aussi, ça veut dire qu'en fait, c'est aussi une signification de réconciliation avec ce que la vie était, mm-hmm. ou a été, ou pourra encore être. Et d'ailleurs, le cœur de l'espérance chrétienne, c'est la restitution pleine et entière de tout être, réconcilié en Dieu. Si c'est pas, je pense que si c'est pas ça notre espérance, alors au fond, on a une approche tout à fait sécularisée du truc. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une utopie matérialiste quelque part. Moi, j'espère vraiment que tout sera, enfin, j'espère sincèrement que tout sera réparé, que toute souffrance sera, enfin, je peux pas espérer autre chose que toute souffrance humaine sera réparée et restituée, et y compris tout être vivant. Sinon, je vois pas à quoi ça sert, franchement. Enfin, sincèrement.
Je trouve ça incroyable et j'aimerais faire un petit callback au premier épisode où tu disais oui, alors moi, parler de la foi, etc. Tu viens de nous faire une excellente démonstration de foi.
Mais oui, mais parce qu'en fait, j'ai voulu prendre ça. Enfin, sinon, bon, c'est quelque chose qu'on passe un petit peu.
Oui.
On gère un petit peu cet événement et on saisit pas en fait à la fois tout le tragique de la mort. Et en même temps, tout ce que nécessite le tragique de la mort comme réponse. En fait, il n'y a pas d'autre réponse à l'extrême tragique de l'existence, quelque part. Et c'est en ça que je pense qu'il y a une vraie spécificité dans cette approche-là. Et je pense que c'est là. Enfin, voilà, maintenant, je ne vais pas faire d'apologie du christianisme en plus, mais je pense qu'elle elle vient nous dire quelque chose qui est de tellement inattendu, de tellement inespéré aussi. Que ça me redonne quelque part goût à la vie. Parce que j'ai. Et ça me répare. Et puis en même temps, ça me rend la souffrance pas beaucoup plus acceptable. Parce que très souvent, on dit. Il y a cette idée que les chrétiens, en fait, seraient dans un rapport de consolation. Parce qu'en fait, ils accepteraient pas le drame. Mais en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est sans horizon ni transcendance, c'est pas une forme de réconciliation fantastique avec le monde.
Non.
On assiste plutôt à ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de nihilisme hédoniste, mais pas on n'est pas dans le, enfin, je sais pas, c'est pas des lecteurs de Camus quoi auxquels on a affaire. C'est vraiment une sorte de comment dire, il y a une sorte de désespoir à générer en fait un goût pour le monde qui ne le protège plus. Qui l'instrumentalise complètement. Alors, je veux pas faire un jugement sur le monde, clairement
pas.
Pas du tout. Je pense qu'on fait tout ce qu'on peut, sincèrement. Je juge personne, vraiment. Et puis, nous, on est aussi pris là-dedans, évidemment. Mais je pense qu'en perdant la possibilité, en perdant cette. En ne prenant pas au sérieux l'événement de la résurrection, c'est comme si finalement. Mais ça, je parle en tant que chrétien, on n'arrivait pas à prendre au sérieux ce qui nous arrive, en fait. C'est comme s'il fallait le corrélat d'une résurrection pour qu'on accepte la fragilité de notre condition. Parce que si elle n'a pas d'horizon, cette condition, qu'elle est pure fragilité, alors effectivement, on peut aller du côté d'une forme de réparation d'un autre type, et qui est le bien matériel, qui est une autre forme de solidité, en fait, une autre forme de sécurité. Et puis, il y a un sentiment d'injustice qui peut être tellement fort et qui peut le mener à une forme d'incapacité de lutter quelque part contre les injustices, paradoxalement. Le fait que la promesse ce soit la restitution complète de l'autre et de soi indique qu'il y a quelque chose déjà aujourd'hui qui est possible.
Sachant qu'il me semble, enfin, je conçois ça par rapport à la pointe, là ce que tu décris pour moi relève justement de l'espérance. Si on reprend le credo, c'est le dernier article sur la résurrection des morts, c'est l'espérance sur ce qui va encore advenir, la résurrection finale. Et c'est vrai qu'en fait, on s'arrête souvent sur la résurrection de Jésus, mais c'est pas, comment dire, l'acte de la résurrection en tant que tel. Dans ce récit, c'est pas vraiment... Enfin, comment dire, c'est pas ça. Oui, il y en a d'autres qui ressuscitent. À nouveau, il y en a d'autres qui ont ressuscité. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont revenus à la vie avant, dans les histoires de l'Évangile et tout. Et puis, il me semble que la pointe de cette résurrection-là, celle-là, c'est de dire qu'en fait, l'espérance que tu décris, qui avant était réservée au peuple d'Israël, en fait, c'est-à-dire que l'espérance de cette résurrection d'entre les morts, telle qu'on la reçoit, elle vient de toute une tradition de textes qui essaie justement de... Qu'est-ce qu'il faudrait dire en tout cas, qui sont issus d'une situation de violence, d'une situation d'oppression assez forte, de déstructuration culturelle aussi, enfin, de tout un tas de trucs, et qui en appellent justement à une justice possible, à une vie possible... face à ce qui est devenu complètement impossible. Puis, avec Jésus, en fait, il n'aurait pas dû ressusciter. L'histoire, si on suit la norme culturelle dans laquelle il grandit, il n'aurait pas dû ressusciter ce gars. Pas comme il est mort. Pas avec ce qui s'est passé. Il ne peut pas ressusciter. Mais ce n'est pas une question de possibilité matérielle, en fait. Cet homme n'a pas vécu une vie et n'est pas mort de telle manière à ce que lui puisse espérer ou qu'une résurrection soit espérable pour lui.
Mais la nouveauté qui est indiquée, c'est que c'est parce qu'il a souffert sur la croix, qu'il y a eu cette croix, qu'en fait, il est allé jusqu'au bout de la condition humaine dans ce qu'elle a de pire, qu'en fait, il est restitué à la même hauteur, en tout cas même plus. Comment dire ? Oui.
Enfin, c'est de dire que tu peux pas dissocier les deux, du coup.
Bah, c'est disons pas juste que si, la... bah, je sais pas, je vais dire quelque chose d'absurde, mais si Jésus avait fini ses jours dans un salon à côté d'une cheminée, et puis qu'il se soit endormi, puis qu'il réveillé 3 jours plus tard, enfin voilà, il aurait pas. Enfin, je sais pas, c'est absurde, mais il serait pas allé au bout de ce que la condition humaine dans ce qu'elle a de tragique peut amener.
Et dans ce qu'apparemment, le point jusqu'où le salut doit aller, justement. Enfin, je pense qu'il y a cette...
Oui, je pense pas qu'il y ait d'automatisme, qu'il y ait de nécessité narrative, qu'on n'est pas dans les justifications du mal pour un bien, etc. Mais en l'occurrence, j'ai vraiment l'impression que ce qu'il y a de difficile à admettre dans nos existences, c'est notre fragilité et le fait que nous puissions disparaître et que les nôtres disparaissent. Et qu'au fond, je n'ose même pas imaginer le type de précarité que ces sociétés avaient aussi. D'ailleurs, on le sent dans les textes de l'Antiquité, on sent quand même une précarité très très forte vis-à-vis de la durée de vie et des circonstances. Donc, je pense que c'est une... Oui, il y a quelque chose d'inadmissible avec lequel il essaie de nous réconcilier dans cette résurrection.
Ouais. Sophie, ça s'est transformé un tout petit peu en discussion entre Dimitri et moi là depuis quelques minutes. Oui, je sais pas comment toi tu raisonnes avec ce qu'on échange.
Ouais, moi je reviendrai presque à ce qui m'a interpellée dans les témoignages qu'on a entendus. Ce que je trouve déjà intéressant, c'est avec la résurrection, on est au cœur de la foi. Hein, c'est un peu ce que tu disais aussi, Dimitri. On touche vraiment à quelque chose de l'ordre de fondamental et du centre, et aussi à quelque chose d'assez banal dans toutes les discussions qu'on a eues autour du miracle. C'est aussi cet enjeu simplement de... Si on a des preuves, alors on est dans le registre du savoir. Quand on n'a pas de preuves, on est dans le registre de la foi. Et cette distinction-là, à mon avis, elle est importante à faire. Parce que des fois, on glisse un peu entre les deux, parce que pour nous, croire, ça veut aussi dire être convaincu, voire avoir connaissance de quelque chose.
Oui, il y a une dimension cognitive aussi.
Voilà. Ouais. Donc, c'est des fois un peu paradoxal de ce côté-là. Et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant dans le témoignage qu'on a entendu de Guillaume, c'est ça. C'est aussi ce côté de « Ah, des fois, j'en doute, mais en même temps, ça a tellement bouleversé ma vie ». Que c'est quelque chose d'essentiel. Et moi, je trouve cette chose-là intéressante, finalement. La question, c'est... Alors oui, bien sûr, il y a est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas, mais c'est aussi est-ce que ça a bouleversé ta vie, cette histoire, ou bien pas. Et moi, je trouve qu'au-delà de est-ce que ça s'est vraiment passé, les débats historiens, botté en touche, le questionnement, l'ambivalence, quand on est en mode rationnel, évidemment que ça fait pas vraiment sens, cette histoire. Mais évidemment, bien sûr, on est dans un registre de foi. Mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'elle t'a bouleversé, cette histoire? Et moi, ça m'a bouleversé, littéralement. Et ça c'est un truc, ça a renversé ma vie. Avec cette histoire, il y a quelque chose qui change dans le rapport qu'on peut avoir justement à la mort, au tragique de l'existence, au courage, à la dimension spirituelle de la vie. Enfin, L'explication autour de la lumière de Carolina était très belle aussi sur cette dimension-là. Donc, pour moi, là, on touche à quelque chose d'assez fondamental, d'assez essentiel par rapport à la foi. Et en même temps, bien sûr qu'on n'a pas la réponse. Sûr que rationnellement, c'est contre-intuitif. Et en même temps, c'est ça qui est fort. L'évangile nous propose une histoire absolument contre-intuitive.
Oui, puis elle performe de la contre-intuitivité à l'interne, j'ai envie de dire. Enfin, c'est le Jésus, le gars qui accomplit tout en transgressant tout.
C'est un bouleversement, c'est un renversement total des catégories du monde, y compris de celle de la mort. De dire, mais en fait, il y a une plénitude et une joie à trouver dans quelque chose qui se passe après. Mais c'est complètement contre-intuitif. Tu vas dans un hôpital avec des gens qui meurent, c'est terrible, c'est tragique, c'est dur de garder une forme d'espérance. Et en même temps, il y a cette histoire qui nous dit, dans ce corps supplicié, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Et un renouveau est possible, et une vie nouvelle est possible, virgule, il y a un après, c'est pas un point, c'est une virgule. Waouh!
Ouais, on a beaucoup insisté, dans la discussion théologique, on a bien insisté sur le fait que non, il y a bien un point. mais pour radicaliser le passage, en fait, et radicaliser l'espérance qui vient avec, dans le sens où en fait, mais c'est ce que tu dis, je crois, c'est que, Dimitri, c'est que l'événement ou la résurrection, en fait, met en lumière sans doute deux choses, c'est à la fois la promesse et la force qu'elle a de vie dans le monde, et au fond, l'abîme dans lequel qui lui fait face. Pas l'abîme qui lui fait face, je ne sais pas s'il lui fait face, mais... Oui, c'est dans le registre de l'absurde, peut-être. C'est-à-dire que l'idée qui va jusqu'au bout, ça n'est pas justement... Il y a des théories qui ont, à un moment donné, qui ont circulé en disant « Oui, mais en fait, Jésus, il n'est pas complètement mort. » C'est juste qu'ils n'ont pas tout à fait remarqué. Il y avait encore un bout de vie en lui, ils n'ont pas vu. Il s'est réveillé après, dans la tombe. Et l'étincelle de vie a réanimé le corps, mais en fait, il n'était pas vraiment mort.
Oui, mais il y a aussi les docétismes qui refusaient l'idée qu'il soit sur la croix ou des choses comme ça.
Mais du coup, il me semble que dans les évangiles, il y a quand même vraiment cette mise en lumière du jusqu'à où ça va sur la croix. Et puis quand ils disent qu'ils remettent son esprit, c'est ok, la vie est partie, quoi, apparemment. Enfin, en tout cas, l'esprit de vie a quitté ce corps. Qui est la seule source de vie, ou la seule puissance de vie qui a, en tout cas dans une perspective biblique, quoi, dans la vision des choses.
Oui, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus que, alors, on va avoir une semaine, des religions sur l'âme. Et faut pas sous-estimer que nous sommes dans un contexte et puis qui va durer, hein, de la persistance de la vie après la mort malgré tout. Alors là que le fait que le corps soit concerné, c'est pour signifier encore mieux que le corps y compris
tout à fait
sera restitué.
Tout à fait.
Parce qu'il y a rien de plus propre, plus personnel, de plus tangible que le corps lui-même. Et en cela, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce message-là, dans la résurrection du corps du Christ. Et ensuite, très souvent, enfin, moi ça me rappelle toujours Pâques, chez les orthodoxes, on dit il est vraiment ressuscité, c'est qu'en fait, non, prenez-le à la lettre, quoi. Il est vraiment ressuscité, c'est pas... Prenez ça au sérieux, parce que sinon... Il y a quelque chose qui n'a pas joué, quoi. Sinon, on va en rester à la croix, puis au Vendredi Saint. Et puis, peut-être qu'on peut en rester à la croix au Vendredi Saint. Et puis, ce serait la thématisation de l'abandon de Dieu. Ça pourrait jouer. Ça suffirait, à mon sens, pour faire une religion, en tout cas.
Je pense qu'il y en a qui sont encore là-dedans. Hein.
Bien sûr. Et je pense qu'il y a même une tendance. Et je pense même moi, à un moment donné, j'avais cette tendance-là, d'être plutôt du côté du Vendredi Saint, plutôt de la résurrection. Mais j'ai travaillé sur moi justement pour admettre cette... Et en fait, de réaliser que ça correspondait à mes attentes les plus profondes, à mes aspirations les plus profondes, en réalité, si je ne me mens pas à moi-même. J'espère vraiment qu'il y aura une vie. Enfin, je ne sais pas vous, mais... En tout cas, si on se situe aussi du côté des autres religions, il n'y a aucun doute pour eux que ça va continuer. Aucun. Il n'y a que chez les protestants, parce qu'on n'a pas voulu... faire de l'ingérence spirituelle sur la destinée de l'âme. En fait, il fallait s'en remettre à la grâce divine et pas faire des intercessions, pas prier, faire des... Il n'y avait pas de purgatoire, etc. Donc c'était sur fond d'une polémique théologique. Parce qu'on voulait qu'on s'en remette à Dieu et à sa grâce, mais en l'occurrence, ça ne supprimait pas l'idée qu'il y avait une continuité.
Absolument pas, non.
Et si nous, maintenant, on est devenus très prudents là-dessus, ça fait quand même partie du fond. De la réflexion sur le salut, malgré tout.
Ouais, tout à fait.
C'est. Alors qu'on a très souvent envie de penser le salut ou la résurrection sur une modalité d'un maintenant qui est corrélé au monde, etc. Oui, bien sûr, c'est ce qui lui donne de la prégnance et de l'importance, mais il y a néanmoins quelque chose qui doit se jouer après, sur lequel on ne va pas se prononcer comme protestant.
Sauf dans les services funèbres. Moi, quand je célèbre des cérémonies d'adieu, en fait, je ne fais que ça. Je fais que de témoigner pour les gens que j'ai l'espérance que leur proche est accueilli en Dieu.
Oui.
Et puis, alors, la résurrection, c'est un concept un peu difficile à transmettre à nos contemporains. Les gens ne se reconnaissent pas souvent... justement parce qu'il y a cette longue tradition, etc. Mais il y a des textes...
De rejet ou de...
Non, il faut pouvoir quand même situer dans une certaine tradition le christianisme pour percevoir certains enjeux.
Ah oui, dans ce sens-là. Elle est lisible à partir d'un
voilà,
contexte.
Voilà, exactement. Ouais. C'était dans ce sens-là.
Ouais.
Mais en fait, moi je témoigne de ça pour les gens. Et souvent, le moment où ils sont touchés, c'est bien sûr l'évocation de leurs proches, mais c'est quand tu remets le proche à Dieu et tu dis, ben voilà, moi je crois que cette personne est en paix maintenant, elle est restaurée, et que Dieu prend soin de lui. Et c'est aussi ça qui permet quelque part d'accompagner un processus de deuil qui est pas naïf sur la séparation. Au contraire, la cérémonie d'adieu, elle permet de thématiser la séparation, de l'acter, d'acter aussi ce que tu disais sur le tragique, sur il y a un truc qui est dramatique, et puis des fois c'est aussi acter que c'était long, que ça a pris temps, qu'il y a eu des souffrances physiques, qu'il y a eu des souffrances psychiques, qu'il y avait des tensions, etc. Mais au final, c'est de témoigner de cette lumière là et de dire moi je pense que ultimement, c'est pas ces souffrances qui ont le dernier mot, c'est pas la mort qui a le dernier mot, et qu'on sera restauré dans quelque chose de lumineux où tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été compliqué, etc., n'a pas sa place.
La vision de la Jérusalem céleste qui descend et de tout ce qui est exclu.
Exactement. De ce qui,
plus
ce
ni
qui
mort, n'a... ni maladie, ni souillure, ni enfin, tout un tas de
ni
trucs.
Ni chaos, enfin, il n'y a plus de mer. Tu parlais de la symbolique de l'eau. Il n'y a plus de chaos, etc. Et là, il y a quelque chose, à mon avis, d'essentiel et en même temps d'insaisissable. Parce que des fois, rationnellement, devant les
fêtes,
vide de mes angoisses et le chaos de mon existence, des fois, j'y crois pas trop. Je me fais avaler par des forces qui sont liées à l'angoisse, qui sont liées à la peur du vide, qui sont liées à la peur de la mort, etc. Mais de dire, le Christ, à un moment donné, ce qu'il a traversé, c'est ça. Et il nous dit que Dieu est présent même jusque-là. Et que du coup, il n'y a pas de raison qu'on ait peur. Alors même que c'est complètement contre-intuitif de toutes les forces qui nous constituent en tant que force de vie, en tant qu'humain, en tant que... Oh mon Dieu, je vais plus pouvoir respirer sur cette terre un jour. C'est quand même... ça s'oppose fondamentalement à ce qu'on est aussi. quelque part.
Il y a des réflexes aussi, j'imagine, à tout un tas de réflexes vitaux, bah, oui. Hein, basiques.
Hein. La plupart du temps, le réflexe de mort vers l'autre, il est lié à un réflexe de survie pour toi, ou de perception d'une certaine menace, ou de... Bah, Jésus, il te dit que ça, au fond, c'est... Même ça, c'est... Ça a été transcendé d'une certaine manière.
D'une certaine manière. Wow, on est allé loin, là. Merci beaucoup à vous deux de... Ouais, on s'expose un peu mutuellement sur ce qui sans doute fait le cœur, effectivement, de cette foi chrétienne. On arrive au bout de cette session, on fonctionne par session de 3 enregistrements, hein, chaque fois, où on aura parcouru la thématique de l'Église, de la vérité, et puis là maintenant du miracle, avec cette pointe là maintenant par rapport à la résurrection de Jésus. Et puis c'est toi, Sophie, qui va... Si, oui, tu me regardes comme ça, mais c'est tout à fait toi qui va préparer un envoi pour nos éditeurs, nos auditrices, et je me réjouis de t'écouter.
Moi, je pensais au petit et au grand miracle, et en fait, finalement, aussi à l'articulation entre les deux. Donc, j'ai envie de faire une invitation qui est double, à la fois de proposer à nos auditrices et auditeurs de penser à, dans leur vie, dans nos vies, de nous inviter à percevoir les petits miracles de la vie, et puis aussi à cultiver cette notion de la promesse et de l'élan que ça peut nous donner, ces petits signes, ces petits bonheurs-là, vers quelque chose de plus grand, que ça pointe vers quelque chose de plus grand, et aussi d'une espérance qu'on peut avoir pour le monde, parce que j'ai beaucoup l'impression qu'on est des fois un peu paralysé par la réalité du monde tel qu'il est, par les conflits qui connaissent des résurgences dans le monde, par un peu l'espèce de désespoir ambiant ou de pessimisme ou d'immobilisme, et de dire mais et s'il y avait une promesse plus grande pour le monde, est-ce que ça changerait quelque chose pour nous aussi au quotidien, et comment les petits bonheurs peuvent changer la manière qu'on a de voir le monde. Un peu ce double mouvement-là.
Merci Sophie pour cette invitation à soigner notre perception des petits miracles. Et puis pour vous qui nous avez suivis jusque-là, bien n'hésitez pas à partager avec nous vos impressions, vos idées aussi par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on explore. On est 3, c'est déjà plus qu'un monologue, mais si vous voulez vous joindre à nous dans la réflexion, dans le commentaire, avec joie, on lirait vos commentaires et on y donnera une réponse. Et puis sinon aussi, n'hésitez pas à évaluer ces podcasts sur vos plateformes où vous l'écoutez. Ça nous aide à ressortir un tout petit peu au milieu du jeu des algorithmes. Sinon, portez-vous bien et nous, on se retrouvera pour les 3 derniers épisodes de cette saison 2 d'Explore. À tout bientôt. Ciao.